Chapitre 11. Alors, mademoiselle, gloussa la voix de l'hôtesse, on avait un peu trop bu, me semble-t-il. En tout cas, ce petit somme vous aura permis d'échapper à la partie la plus fastidieuse du vol. À présent, le jour est levé. Vous pouvez regarder par les hublots. La vue est magnifique. Peggy bâilla ostensiblement avant de tourner la tête vers la surface de polycarbonate transparent. Elle comprit aussitôt qu'elle contemplait un trucage issu d'une prouesse technologique. Derrière les faux hublots défilait un paysage ensoleillé trop beau pour être vrai. Une carte postale en trois dimensions déroulant à l'infini un panorama de fjords pris dans la glace, de plaines enneigées. Un chromo de Noël, comme on devait en trouver sur les tourniquets des drugstores dans l'immédiate après-guerre. L'illusion de profondeur était parfaitement rendue. Les textures, peut-être trop brillantes, avaient été pudiquement voilées par une touche de nuage appliquée avec science. Rien ne manquait, pas même le vol d'oies sauvages traversant l'azur. C'était du beau travail. Peggy se demanda s'il s'agissait d'images de synthèse ou d'un procédé holographique. Chaque hublot était synchronisé pour donner l'illusion que le paysage bougeait au fur et à mesure que l'avion poursuivait sa course. Des cris admiratifs fusèrent, des appareils photos cliquetèrent. Devinant qu'on l'observait, Peggy joua la comédie de l'extase naïve. Elle savait qu'en réalité leur véhicule se déplaçait à la verticale et non horizontalement, comme s'échinaient à le faire croire les hublots factices. « Ils ne veulent pas que nous apercevions la courbure de la Terre, » songea-t-elle. « Aucune d'entre nous n'est censée comprendre que nous filons au cœur de la stratosphère, en direction d'une station orbitale. » Quoi qu'il en soit, le spectacle était digne des studios Disney. Un tour de magie numérique de la plus belle eau. « Je m'appelle Sylvia, » annonça l'une des hôtesses. « La température au sol est de 20 degrés Celsius au-dessous de zéro. » Il ne nous est pas possible de vous révéler quelle est notre destination, mais sachez d'ores et déjà que le froid y sera encore plus vif. Voilà pourquoi vous n'aurez pas l'autorisation de quitter la station. N'y voyez aucune volonté d'emprisonnement. Il se trouve simplement qu'une promenade d'un quart d'heure à l'extérieur des installations suffirait à vous brûler les poumons. Ne l'oubliez jamais, votre survie en dépend. Lorsque nous atterrirons, vous pénétrerez dans les locaux du centre par un tunnel chauffé qui vous protégera du froid extrême régnant au dehors. Quand j'emploie le mot « froid », je fais référence à des températures frôlant 50 degrés au-dessous de zéro. À moins d'être né en Alaska, il vous sera difficile de supporter un tel environnement. C'est pourquoi je vous engage à ne pas prendre à la légère les consignes de sécurité que mes collègues et moi-même allons à présent énumérer. Peggy retint un sourire. La raison évidente de ce discours consistait à les persuader qu'on allait les débarquer quelque part aux alentours de Tulé sur l'une des nombreuses bases militaires US déguisées en station météo. Lors de l'énumération des mesures à observer, Peggy put constater qu'il s'agissait du protocole en usage dans les bases polaires. Elle connaissait. Le message était clair. « Ne mettez pas le nez dehors, tas de dinde, ou vous gèlerez sur pied. » Afin d'atténuer la mauvaise impression générée par ces avertissements, les hôtesses distribuèrent de luxueux catalogues censés donner un aperçu de la vie au cœur de la station. Peggy, en les feuilletant, eut l'impression de regarder la brochure publicitaire d'un hôtel 5 étoiles. Rien n'avait été oublié. Le complexe comptait 5 salles de cinéma où l'on pouvait assister gratuitement à la projection des films sortis une semaine plus tôt à New York. On dénombrait 4 dancing, 6 nightclubs, autant de bars à vin, des salles d'aérobic, des patinoires, des piscines, un solarium, des instituts de remise en forme. Une galerie marchande permettait de se livrer aux joies ineffables du shopping. Bref, rien n'avait été oublié. « Vous pouvez me faire confiance, » plaisanta Sylvia avec un sourire étincelant. « Dans de telles conditions, un an, ça passe très vite. » Je serais tentée de dire « trop vite ». En ce qui me concerne, je n'ai jamais souffert de l'enfermement. J'étais trop occupée. Tous ces rendez-vous, toutes ces fêtes. Elle adopta une mine attristée pour ajouter « Hélas, aujourd'hui c'est terminé. Ceci est mon dernier voyage. J'arrive au terme de mes 2 ans. Or, pour des raisons médicales, on n'a pas le droit de rempiler une 3e fois. Croyez bien que je le regrette. J'espère sincèrement que vous vous amuserez autant que moi. » Les filles la remercièrent avec chaleur. Le petit speech, parfaitement calibré, avait détendu l'atmosphère. « À présent, conclut Sylvia, installez-vous bien à l'aise dans vos fauteuils. Nous allons vous projeter la démo de présentation de la station. Ainsi, lorsque nous nous poserons, aurez-vous l'impression de débarquer en pays familier. » La projection qui suivit empruntait la forme d'un documentaire enthousiaste pour club de vacances. Peggy nota la présence de pseudo-baies vitrées par lesquelles on découvrait un paysage polaire où trottinaient des ours blancs. Ces fosses échappées sur l'extérieur avaient sans doute pour fonction de combattre la claustrophobie qui ne manquait pas d'accabler les prisonnières au bout de quelques semaines.
« Des décors, estima-t-elle. Du faux-semblant. Mais qu'y a-t-il derrière tout cela ?» Les paroles de Gordon, le nain, résonnèrent à ses oreilles. « Ne leur faites jamais confiance. Ils mentent en permanence. » Elle décida de suivre ses conseils à la lettre. Sitôt le documentaire achevé, on leur distribua à manger. Le menu était somptueux. Caviar, langouche, champagne. Le vin, drogué, plongea les voyageuses dans l'inconscience. On évitait ainsi qu'elles ne posent trop de questions. Sitôt les filles endormies, les hublots s'éteignirent. Les paysages merveilleux disparurent, remplacés par un alignement d'écrans opaques. Peggy prit son mal en patience. Les nanoparticules combattaient d'arrache-pied l'effet des narcotiques, mais leur action avait généré une migraine tenace qui l'accabla pendant tout le reste du voyage. Enfin, aux diverses secousses et manœuvres ébranlant l'appareil, Peggy sut qu'on arrivait à destination. Un choc sourd fit vibrer le fuselage à la hauteur du sas d'évacuation. Elle supposa qu'il s'agissait du tunnel reliant la navette à la station orbitale. C'est par cet ombilic qu'on allait pénétrer dans le repère secret des géants. Elle feignit de s'éveiller. Sylvia, s'obstinant dans son rôle de gentillotesse, parcourut la travée en frappant dans ses mains. « Mesdemoiselles, claironna-t-elle, nous sommes arrivés à destination. Debout. Le petit déjeuner vous sera servi au restaurant du Grand Hôtel. » Elle avait prononcé ces derniers mots en français avec un accent impeccable. Les filles s'extirpèrent de leur siège en maugréant. Plusieurs se plaignirent d'avoir la migraine. On se regroupa dans la travée tandis qu'une seconde hôtesse déverrouillait la porte du fuselage. Un froid extrême envahit la cabine. Un boyau télescopique d'une 30aine de mètres adhéré à la coque, dissimulant l'appareil au regard. Une passerelle reliait l'avion au hall de débarquement. Ce passage marquait la frontière de la station. Une fois cette ligne franchie, on entrait dans un autre monde. Les voyageuses, en bonne californienne, claquèrent des dents. « Traversez sans courir, » recommanda Sylvia. Pas de bousculade. Peggy estima que la température avoisinait le zéro. Sa respiration faisait naître des nuages de vapeur au sortir de sa bouche. Elle imita ses compagnes et s'engagea sur la passerelle. Elle songea avec un léger vertige qu'elle était probablement en train d'enjamber le vide cosmique. Elle avait l'impression de peser moins qu'une plume. Un simple coup de pied, se dit-elle, et je m'élèverai de 3 mètres. La gravité artificielle à l'intérieur du tunnel de raccordement était inégalement répartie. Les filles mettraient cela sur le compte d'un malaise. D'ailleurs, abruties de somnifères, s'en rendraient-elles compte? Au bout du tunnel s'ouvrait un vaste sas au centre duquel les voyageuses se rassemblèrent. On avait été assez habile pour camoufler la technologie omniprésente sous des panneaux de bois précieux. Tout avait été conçu pour donner aux visiteuses l'impression qu'elles se trouvaient dans le hall d'un hôtel chic, et non dans l'ombilic de transit d'une station orbitale. Quand la porte fut refermée, les pressions équilibrées, l'atmosphère se réchauffa. « Ne vous inquiétez pas si vos oreilles bourdonnent, » déclara Sylvia. « La station est située en altitude. Votre sang va se charger en oxygène, vos globules rouges augmentés. D'ici 10 jours, vous serez capable de courir le marathon de New York. » Des rires contraints s'élevèrent.
La station est située en altitude, ricana intérieurement Peggy. Certes, on peut difficilement faire mieux en matière d'euphémisme. L'hôtesse prit la tête du peloton pour les conduire à la salle à manger où on leur servit un excellent café. « C'est vraiment la grande classe », chuchota Poppy Warlow, toujours accrochée au basque de Peggy. « C'est la première fois que je mets les pieds dans un endroit pareil. » Au vrai, on se serait cru dans la salle à manger du Titanic une heure avant l'arrivée de l'iceberg fatal. Rien ne manquait, pas même les statues de marbre. Le décorateur avait judicieusement choisi de remplacer les fenêtres par des vitraux qui, tout en suggérant l'existence d'ouvertures sur l'extérieur, ne laissaient rien voir du dehors. Une musique douce planait. Intimidées, les filles restaient pelotonnées devant le buffet, n'osant toucher aux victuailles. Des serveuses allaient et venaient, en tenue de soubrette à la française. Les tasses étaient en porcelaine de qualité, les verres en cristal de Waterford, les cafetières et les théières en argent. L'ensemble respirait un luxe de bon aloi. « On est loin de 2001 Odyssée de l'espace », songea Peggy en se versant une nouvelle rasade de café cubain. « les filles, écoutez-moi », lança Sylvia, adoptant cette fois le ton d'une éclaireuse en chef, organisant une vente de biscuits. « On va maintenant remettre à chacune d'entre vous la clé de sa chambre. Profitez-en pour prendre une douche et vous reposer. Quelqu'un viendra vous chercher pour vous exposer le déroulement des opérations. Soyez calme et patiente. Au début, vous serez désorientée, mais d'ici une semaine, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. » Vint le moment des adieux, et la dernière mission des hôtesses consista à conduire le troupeau jusqu'à la réception, où l'on remit à chaque arrivante une clé dorée à leur fin. Peggy se vit attribuer une chambre au premier étage. La cabine avait été aménagée dans le style 1900, avec beaucoup de fanfreluches et de bibelots, ces derniers étant collés sur les étagères afin qu'ils ne s'envolent pas lors des pannes imprévisibles de la gravité artificielle. Une fausse fenêtre en œil de bœuf ouvrait sur l'extérieur. Il s'agissait, encore une fois, d'un écran plasma diffusant en boucle le spectacle d'un panorama enneigé aux trois quarts noyé de brume. Peggy prit une douche comme on le lui avait recommandé. Dans un placard, elle trouva un joli tailleur gris-perle, des bas de soie et un porte-jartel. Tout était à sa taille. On y avait joint un nécessaire de toilette en nacre, d'un travail exquis. « Bon sang, songea-t-elle, ils veulent vraiment nous transformer en cocottes. » Elle s'habilla avec l'impression d'enfiler un déguisement d'Halloween. Elle ne se rappelait même plus quand, pour la dernière fois, elle avait porté un tailleur et des bas. Sagement installée dans un fauteuil crapaud, elle attendit qu'on vienne la chercher. Une heure plus tard, une hôtesse en uniforme brun se présenta sur le seuil. Elle expliqua à Peggy que le tailleur gris-perle était le signe distinctif des apprentis. Tant que Peggy le porterait, elle devrait se comporter en observatrice. Les messieurs n'auraient pas le droit de lui adresser la parole. L'étiquette exigeait même qu'ils évitent de la regarder. Elle serait ce qu'en jargon interne on surnommait une invisible. Chacune d'entre vous sera confiée aux soins d'une aînée, continua l'hôtesse. Nous entendons par là quelqu'un qui approche du terme de son engagement et qui connaît parfaitement les lois de la station. 10 minutes après, on présentait Peggy à une grande et belle femme dans la trentaine. Brune, elle affirmait se prénommer Mona. Elle avait les mouvements fluides et l'assurance d'un top modèle. Ses cheveux coulaient, liquides, masquant la moitié de son visage, comme sur les vieilles photos de Véronique Alec. Elle invita Peggy au salon de thé du grand hôtel. « Ok, » attaqua-t-elle une fois les tasses remplies de l'absinthe souchong. « Autant y aller bille en tête. Je ne dispose que d'une semaine pour te déniaiser, alors je laisserai de côté les précautions oratoires. Il y a 2 ans, j'étais assise à la même place que toi, et je me posais la même question, celle que tu n'oses pas formuler. Est-ce que je suis ici pour faire la pute ?»«
C'est vrai !» admit Peggy, fignant la confusion. « Il n'y a pas de mal, » reprit Mona. « On est toutes passées par là. Je répondrai franchement,
c'est à toi de voir. Si tu le fais, n'attends rien de tes clients. Ils ne mettront pas la main au portefeuille. Avec le paquet de fric qui t'attend sur ton compte en banque, ce serait un comble, non? Si tu couches, tu coucheras gratis. Pourquoi le faire alors, me diras-tu? Parce que le mec te plaira, ou parce que tu auras pitié de lui, que tu auras envie de t'envoyer en l'air, ou parce que tu diras que c'est ce qu'on attend de toi, tout simplement. Il y a des tas de raisons. Bref, officiellement, il n'y a pas d'obligation. Ton rôle est celui d'une escort girl ou d'une geisha. Tu es là pour distraire ces mecs, les empêcher de déprimer. Ils sont enfermés depuis des années et certains d'entre eux commencent à perdre la boule. Peggy hocha la tête. Mona affectait une grande liberté de propos, mais tout cela participait, à n'en pas douter, d'une mise en scène planifiée. Il y a même des suicides, ajouta la grande femme brune en baissant la voix. C'est pour ça qu'on est là, toi et moi, pour leur assurer un semblant de vie normale. Et c'est quoi la vie normale d'un scientifique de haut niveau sans qui Peggy ? Mona poussa un long soupir. Ne t'attends pas au dragueur basique, lâcha-t-elle. Ces gars ont passé leur jeunesse le nez dans les bouquins, à gribouiller des équations du cinquième degré, à calculer des trucs que nous ne pouvons même pas imaginer. Pendant ce temps-là, les autres mecs de leur âge s'envoyaient en l'air, jouaient au foot, faisaient du surf, bref, vivaient. Tout ça pour te dire que tu vas rencontrer des types complètement refoulés, immatures du point de vue sexuel. Des bêtes de laboratoire, des pointures en physique quantique, en biologie moléculaire, mais dont les fantasmes sont restés ceux d'un gamin de 14 ans. Ils sont maladroits, timides. Pour résumer, ils ont peur des femmes. Tu es là pour les prendre par la main, sans en avoir l'air, tout en leur laissant l'illusion qu'ils mènent le jeu. « Je vois, » dit Peggy. « Et pratiquement, ça se passe comment ?»« Tu vas être affecté à un dancing. On t'invitera, on te fera la cour, tu auras des rendez-vous. » Ces types adorent parler de leur travail, bien qu'en principe ce soit interdit. « Ce n'est pas grave, de toute façon tu n'y comprendras rien. » Laisse-les monologuer et de temps en temps sort quelque chose du genre « Mon Dieu, est-ce possible ?» Ils ne savent pas flirter. Pour montrer qu'ils s'intéressent à toi, ils te feront des cadeaux. Très chers, les cadeaux. Il y a des boutiques de luxe dans la station. Ne cède pas trop facilement, ça leur déplairait. Il faut leur tenir la dragée haute le plus longtemps possible. Ça leur occupe l'esprit. Je ne vais tout de même pas t'expliquer comment on mène un garçon par le bout du nez. Ici, c'est pareil. Et si l'on refuse de coucher, insista Peggy, on est sanctionné ? Mona haussa les épaules. Pas ouvertement, non. On n'est pas dans un bordel, chuchota-t-elle. Mais tu n'auras aucune chance de voir ton engagement reconduit. Peggy haussa les sourcils. Tu veux dire que tu considères comme une chance de rester bouclé un an de plus ici ? S'exclama-t-elle. L'expression de Mona se fit plus dure. Sous le masque de la gentille monitrice se dessina soudain le visage d'une fille revenue de tout. « Tu sais, souffla-t-elle, j'étais top modèle à 17 ans. Ça a duré 5 ans, après la dégringolade a commencé. « Trop vieille, me répétait-on. J'ai claqué tout le fric que j'avais gagné en un temps record. J'avais pris l'habitude des palaces de la grande vie. Impossible de se réacclimater au monde ordinaire. Ça m'a appris une chose. » La richesse, ça ne dure pas, ça vous brûle les doigts. Il ne faut pas longtemps pour claquer $1 million, ou même 2. Ça peut se flamber en une nuit à Vegas. Je sais ce qui va se passer quand je rentrerai à New York. Je serai reprise par mes vieux démons. Les $2 million que j'ai gagnés ici me dureront 6 mois. Après, tant que je reste enfermée à la station, je ne fais pas de conneries.
Évidemment, fit Peggy,
si tu es du genre panier percé, « Il n'y a pas que ça, grogna Mona. Autant que je te le dise tout de suite, tu finiras tôt ou tard par l'apprendre de toute manière. Ce fric est maudit. »«
Maudit ?
Rien que ça. Ne joue pas les malignes. Tu ne sais pas de quoi tu parles. La plupart des filles qui sont rentrées chez elles n'en ont pas profité. Ça ne leur a pas porté chance d'être riches. J'en ai connu plusieurs. Michelle, une Canadienne, est morte d'overdose au bout d'un an. On l'a découverte effondrée, le nez dans un sac de coke. Il y en avait, paraît-il, pour $300 000. Sandra, une fille de San Francisco s'est foutue en l'air du haut d'un pont avec sa Rolls Silver Gold, une bouteille de champagne à la main. Amelia, une sacrée rigolote qui venait de la Nouvelle-Orléans, est claquée d'un coma éthylique, toute seule, dans sa villa de 12 pièces le soir du Nouvel An. On a déterminé qu'elle avait bu coup sur coup 6 bouteilles de tequila. Et pourquoi, selon toi? Le gros fric rend dingue. On commence par acheter n'importe quoi, puis l'ennui vient. Alors on achète encore davantage de n'importe quoi. Mais l'ennui est toujours là. Au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a claqué tout son blé et qu'on va retomber dans la mouise. Alors on panique, on se flingue. La fortune, c'est une malédiction. Elle ne rend pas heureux, mais quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. C'est pour ça que je ne suis pas pressée de quitter la station. « Mais tu auras bientôt tiré tes 2 ans, non ?» fit observer Peggy. « Tu vas devoir repartir, que tu le veuilles ou non. » Une hôtesse nous a dit que c'était la règle. « C'est la règle si tu es toujours célibataire, » corrigea Mona. « Si tu as réussi à te faire épouser, tu as le droit de rester avec ton mari aussi longtemps qu'il travaillera ici. »« Oh, je vois, tu as quelqu'un dans le collimateur ?»« Ça se pourrait, oui. » En tout cas, je te conseille d'y penser dès maintenant, à moins que tu sois du genre fourmi. Moi, je suis cigale, j'ai besoin d'être encadrée. Je serais rentrée dans l'armée si les uniformes avaient été un peu moins tartes. Ici, c'est parfait, je ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a des règles strictes. Les filles n'ont pas le droit de s'enivrer, d'avoir plusieurs amants en même temps, de partouser. Les plaintes pour viol ou pour mauvais traitement ne sont pas prises en compte. Les scientifiques ont tous les droits, même celui de péter les plombs. Ils font tourner la boutique, tu comprends. On ne va pas les mettre en prison. Et ça arrive souvent? Les viols? Non, généralement ils savent se tenir. Les drogues sont prohibées. Mais il ne faut pas oublier que ces mecs-là sont aussi chimistes. Ils fabriquent leur propre dope. Ils en inventent même de nouvelles. Alors parfois, ils décollent et virent fou homicide. Je préfère te prévenir, s'il t'arrive des bricoles, ne va pas pleurnicher auprès de la direction, ça te vaudrait un blâme. Tu devras d'abord m'en parler, on essaiera de régler ça entre filles, d'extorquer un dédommagement aux fautifs. C'est de cette manière qu'on obtient réparation. Un beau bijou, un virement de compte à compte. Ne déclenche jamais de scandale, c'est mal vu. Ces types-là sont intouchables. Peggy demeura un moment silencieuse. Jusqu'à présent, tout lui semblait très ordinaire. Elle avait l'impression de passer un entretien d'embauche pour devenir go-go girl à Vegas. « Et mon site ? » demanda-t-elle. « J'ai des web girls à LA. Je pourrais continuer ici ?» Mona haussa les épaules. « Si tu veux, » dit-elle, « mais fais attention à ne pas trop les chauffer. À ta place, je m'en abstiendrai. Tu risques de te coller d'emblée l'étiquette de salope sur le dos. Ce sera dur à vivre. » Les gars seront après toi comme des chiens en rute. Si tu veux mon avis, démarre doucement. Prends la température de la station. Attends d'avoir jugé les mecs. Le mieux, c'est d'adopter un personnage et de s'y tenir. Un personnage? Oui. La fille de la campagne saine et naïve, la sportive, la dominatrice, la femme enfant, la collégienne attardée, la maman. Tu vois le genre. Si j'en ai assez de mon amant, je pourrais le larguer. Non, surtout pas. Ici, c'est l'amant qui décide. Tu dois attendre qu'on te signifie ton congé pour te remettre en circulation. Et s'il décide de me garder alors que je ne le supporte plus? Tu serres les dents et tu fais comme si tu étais la plus heureuse des filles. Sinon, il risque d'aller se plaindre à la direction et tu seras puni. Quel genre de punition? Tu seras affecté à un autre niveau, à des besognes pénibles. La cuisine, la plonge, l'élevage des volailles, l'entretien des toilettes, et tu y croupiras jusqu'à la fin de ton engagement. J'ai connu une fille qui a écopé d'une rétrogradation. Elle travaillait à l'unité de retraitement des déchets organiques. La merde, les cobayes sacrifiés lors des expériences. Elle devait broyer tout ça pour en tirer des fertilisants. Un jour, elle a pété les plombs. Elle a réussi à se faufiler dans un sas et est sortie sur la banquise, toute nue. Quand on l'a ramassée, on aurait dit une statue de marbre. Ne rigole pas avec ça. Évite de jouer les mauvaises têtes. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont filé $1 million que tu es une vedette qui peut s'offrir des caprices. 1 million, c'est rien pour eux, de la broutille. Ils disposent de fonds démentiels. Peggy se demanda quelle part de vérité comportaient les propos de Mona. Mentait-elle ? Avait-elle été programmée pour débiter ce tissu de mise en garde et de ragots ? Pour en revenir aux choses sérieuses, reprit l'ancien top modèle, sache que le début de chaque mois, tu devras te rendre au dispensaire pour subir une injection contraceptive. Le produit te protégera pendant 30 jours. On n'utilise pas de capote. Les types détestent ça, en outre ils sont propres. Pas de maladie vénérienne, rien à craindre du côté sida. Tous les matins de 10 à 11, tu te rendras au centre de formation continue pour suivre des cours de conversation. Des cours de conversation, glapit Peggy. Bon sang, ils nous prennent pour des demeurés ? Je ne plaisante pas, siffla Mona avec une pointe d'agacement. Bavarder avec des savants n'est pas à la portée de la première venue. Les cours te fourniront des repères, les grandes lignes des avancées scientifiques, le vocabulaire minimum. Ne panique pas, ce n'est que de la vulgarisation, il n'y a pas d'examen au bout. De cette manière, tu posséderas les bases nécessaires. Ça t'évitera d'écarquiller les yeux toutes les 2 minutes comme une dinde quand les mecs te parleront de leur boulot. C'est très important. Ne sèche pas les cours, même si ça te paraît barbant. Ces gars adorent être pris au sérieux. Le job compte plus que tout. C'est leur seul atout dans la vie. Ils lui ont tout sacrifié. Leur jeunesse, les plaisirs de l'existence, leur mariage. Tu devras les admirer comme si c'était des dieux descendus des nuages. Pigé. L'importance de toujours sourire, comme les geishas, d'être de bonne humeur. Ils demanderont de leur raconter ta vie. Là encore, le centre de formation te fournira des scénarios inventés de toutes pièces, mais truffés d'anecdotes rigolotes et croustillantes. Rien de déprimant, un truc genre teen movie. La vie trépidante et drôle d'une pop-pom girl. Vous avez des types qui écrivent ça? Oui, d'anciens scénaristes hollywoodiens spécialisés dans les sitcoms. Ils sont plutôt doués. Avec eux, la vie prend l'aspect d'une formidable pâtisserie. Ils te fourniront toutes les armes dont tu auras besoin pour paraître drôle, enjoué, bourré d'énergie et sexy en diable.